News FM.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'emploi. Avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans La Voix de l'emploi, l'émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Au début du 19e siècle, on parlait d'associations ouvrières, puis dans les décennies qui suivirent de coopératives de production. Au cours du 20e siècle, ce modèle d'entreprise résolument éloigné de l'image classique, avec le patron tout-puissant au sommet et les salariés dominés à la base, ce modèle d'entreprise donc a suivi l'évolution de la sphère économique en se dotant d'abord d'une loi cadre dès l'année 1947 et en servant de base pour d'autres formes d'entreprises originales comme les coopératives d'activité et d'emploi, les CAE, ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC. Dans les années 70-80, on commence à parler de SCOP, acronyme qui signifie Société Coopérative Ouvrière de Production, ou à présent, plus généralement, qui signifie Société Coopérative et Participative. Les SCOP concernent aujourd'hui en France des secteurs d'activité très diversifiés, des entreprises de toute taille, depuis la TPE, la très petite entreprise, jusqu'à la grande entreprise. En 2020, la France compterait plus de 3600 sociétés coopératives dans lesquelles travailleraient plus de 67 000 salariés. Alors, qu'est-ce qui différencie la SCOP d'une entreprise classique aujourd'hui? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Est-ce une formule adaptée à un monde économique plus juste et équitable? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités du jour. Alors, je salue tout de suite, eh bien, honneur aux dames, Jeanne de Kerdrel. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de News FM. Jeanne, vous êtes membre d'une SCOP, l'agence Semaoué. Je vous laisse nous présenter en quelques mots cette structure.
Alors, l'agence Semaoué est une SCOP qui a 13 ans cette année. Nous sommes 6 associés salariés et notre cœur de métier, c'est l'accompagnement d'équipes. Autrement dit, on intervient dans des équipes pour accompagner la gestion de projet, faciliter la communication entre les différents membres de l'équipe et puis accompagner des questions de gouvernance, donc la façon dont on peut prendre les décisions en équipe dans une entreprise.
Vous faites ce genre d'intervention dans n'importe quel type de structure, d'entreprise, pas seulement d'autres SCOP?
Tout type d'entreprise, privées, qui peuvent être SCOP ou pas, des collectivités et des associations.
Alors vous l'avez dit, vous êtes 6 collaborateurs, 6 associés?
Tout à fait, 6 associés salariés.
Et alors comment ça se structure, votre société? Il y a quand même une hiérarchie où tout le monde est au même niveau?
Alors il y a quand même un mandataire qui est élu en Assemblée Générale et qui aujourd'hui est la personne qui a fondé l'entreprise. Et sinon, entre nous, on a différents rôles avec différentes responsabilités et chacun des domaines d'autorité qui nous permettent de prendre des décisions rapidement et de ne pas être obligé de tout décider tout le temps, tous ensemble.
On passe à notre deuxième invité, il s'agit de Cyril Zorman. Bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue à vous également. Alors Cyril, vous avez une double casquette puisque vous êtes directeur d'une SCOP également qui s'appelle le Probesis, c'est ça
oui.
Informatique.
Oui.
Quelques mots pour la présenter
rapidement. Donc nous, la structure Probesis, donc on a 18 ans. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on fait partie d'un groupement coopératif, c'est encore pour rajouter une couche, mais globalement ça fait il y a 25 personnes. Et sur Grenoble, il y en a une quinzaine. Et on est spécialisé, on fait du logiciel Linux. Donc tout ce qui est Linux, de la sécurité, du développement d'applications métiers et de sites web. Globalement, on fait ça et voilà, on se développe. Et on a une autre partie où on édite un logiciel dans la protection de l'enfance.
D'accord. Et puis donc, la deuxième casquette, vous êtes le président de l'Union régionale des SCOP.
Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça.
Ouais. À quoi sert cette union? Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait deux. On a plusieurs choses. C'est qu'on fait du suivi. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est le suivi des SCOP, des SIC, de tout ce que vous avez cité là, pour faire qu'on les aide à se développer de plein de façons ou à s'organiser, etc. Et on a une deuxième partie importante, c'est qu'on aussi, on est là pour l'aide à la création. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils, mais je pense qu'on sera amené à en discuter, il y a plein d'outils dans le mouvement qui permettent à des nouvelles SCOP de se créer ou des SIC. Donc on a une partie suivi de l'existant et on va dire croissance de l'existant et une partie développement. Et après, il y a tout ce qui est de la partie promotion, ce que je fais là, par exemple, aujourd'hui, mais en gros, qui est la promotion de l'ensemble du statut coopératif et ce que vous dites là. Juste pour donner une idée, l'Union régionale des SCOP, c'est à l'heure actuelle 40 salariés qui sont, on va dire, organisés, qui sont... Les financements sont essentiellement dus par les cotisations de l'ensemble des SCOP français, ce qui fait qu'on a quand même un budget pas négligeable et que ça nous permet de faire pas mal de choses. Voilà.
C'est une union régionale, vous l'avez dit, hein, pour Rhône-Alpes. Alors, c'est Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un maillage, il y a des contacts avec d'autres unions régionales?
Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la CGSCOP, qui est la Confédération nationale, en gros, qui regroupe l'ensemble des différentes unions régionales de partout, ce qui fait qu'il y a un maillage. Et après, chacun va s'occuper au niveau régional et au niveau national. Mais évidemment, comme toute structure, et pareil, je parle de l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes, et nous, on a une agence sur Grenoble, il y a sur Lyon, là, on est en train de se mettre... On essaie d'être de plus en plus proche de tous les territoires. Voilà.
Est-ce que, comme beaucoup aussi de structures qui chapeautent, qui fédèrent des membres, vous avez un rôle d'observatoire? Est-ce que vous analysez un petit peu les tendances, les évolutions, notamment sur ces fameuses structures SCOP, dit, hein, c'est depuis les années 70-80 qu'on a commencé à avoir cette forme de SCOP qu'on connaît aujourd'hui. Évolué.
Ah oui, non, mais ça a évolué. D'abord, ça a évolué deux choses, hein, parce que évidemment, il y a très longtemps, dans les années 80, il y avait beaucoup de BTP. Là, on est beaucoup plus dans le service. Mais là, on va dire, je prendrais l'ensemble de l'économie française a évolué comme ça. Après, au niveau des SCOP, ce qui évolue, c'est que par exemple, il y a 10 ans, si vous disiez, vous créez un bar. Tout ce qui était alimentation était complètement en dehors du champ des SCOP. Je ne parlerai pas des coopératives agricoles qu'il ne faut pas confondre avec les entreprises coopératives. Ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer énormément. C'est-à-dire qu'il y a même, on a des fermes maintenant qui se créent en SCOP et pas en coopérative agricole parce que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il y a des vraies tendances de dire, par exemple, les bars qui se créent sur circuit court, etc. Bah, petit à petit, tout ce qui est alimentation, on le voit vraiment rentrer dans le champ des SCOP en disant, mais comment on fait pour avoir quelque chose de sain et garantir que, à long terme, on reste dans quelque chose qui reste vertueux et qu'il n'y a pas à un moment une économie, on va dire, il y a les mauvais côtés de l'économie qui vont reprendre le dessus pour garder, justement, on va dire, la qualité au niveau alimentaire.
Effectivement, ce côté différent, cette différenciation des SCOP en tant qu'entreprise, on va y revenir et en parler en long, en large, en travers, enfin peut-être pas autant que ça, parce qu'on est un peu limité, on peut pas tout dire, mais voilà, il y a cette distinction qui fait que si les SCOP sont nés, c'était bien pour être différente, avoir une philosophie différente. On va en reparler. Notre troisième invité, il s'agit de Lénie Moulin. Bonjour, oui. Lénie.
Bonjour.
Et Cyril commençait d'ailleurs en parlant de tout ce qui était agricole, coopérative, à regarder de votre côté, parce qu'en fait, vous portez un projet de SCOP, mais pas dans l'immédiat. Hein, ça sera sous forme associative, mais c'est autour d'une alimentation solidaire.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis porteur d'un projet de maison d'alimentation durable et solidaire sur Grenoble. L'idée est de proposer un espace de vie partagée aux habitants du territoire, pour venir se restaurer et s'informer sur les questions d'alimentation et d'agriculture durable. Donc là, je suis au début du projet. Je suis en train de rencontrer un certain nombre d'acteurs sur le territoire grenoblois. On va, avec quelques personnes, rapidement créer une association pour nous permettre de lancer le projet.
On va y revenir. Un peu plus tard et pour en savoir un petit peu plus sur pourquoi ce projet et pourquoi ces choix pour le mettre en faire une réalité. Alors, donc, on l'a compris, vous êtes tous les trois concernés par une SCOP. Jeanne, donc vous ne faites pas partie des fondateurs hein, de Semaoué. C'est Semaoué.
Semaoué.
Semaoué. Voilà, il me semblait bien que j'avais mal prononcé. Mais malgré tout, je pense que vous savez ce qui a poussé hein, vos collègues qui ont créé cette SCOP à le faire. Cyril, vous, on l'a dit, donc vous êtes directeur d'une SCOP. Et Lénie, vous portez ce projet. Alors pourquoi il y a ce choix? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a envie de monter une activité, on choisit ce statut juridique? Est-ce qu'il s'agit que de questions
de statut. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je commençais à aborder la notion de philosophie, hein, une philosophie du monde du travail un peu différente. Qu'est-ce qui a motivé donc la SCOP pour Semaoui? Et Cyril expliquera aussi pour Probsys.
Oui, je vais me faire le relais de l'histoire de Semaoui. Semaoui s'est créé au départ en SASU, avec une seule personne, donc le fondateur de l'entreprise, Alyosha Yordanov. Et petit à petit, l'entreprise a grandi. Il y a eu jusqu'à 15 personnes à un moment dans l'entreprise. Et puis, depuis le début, il y avait cette idée, un jour, de passer en SCOP, notamment dans l'idée de pouvoir partager les responsabilités et de pouvoir avoir une aventure entrepreneuriale collective. C'était vraiment ça la motivation. Donc ça a pris plusieurs années avant que l'entreprise puisse se transformer en SCOP. Et ça s'est fait à un moment propice pour l'entreprise où l'équipe était plus petite et avec un noyau de personnes qui étaient prêtes à s'engager dans cette aventure finalement. À ce moment-là, l'entreprise est aussi partie d'Avignon, s'est installée à Grenoble et a un petit peu changé de métier. Et donc tous ces facteurs ont favorisé finalement la transformation de la SASU en SCOP. Il y a donc 7 personnes qui ont fondé Semaoui. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont partis et d'autres qui continuent en tant qu'associés fondateurs à faire partie de l'agence. Et d'autres comme moi ont rejoint plus récemment l'aventure avec vraiment cet attrait pour la SCOP. Pour moi, c'était très important de pouvoir travailler à un moment dans le monde entrepreneurial de façon coopérative.
Cyril, vous avez le poste de directeur. Alors ça veut dire...
Directeur,
que...
je... ouais. Non, non, mais
ah,
oui,
voilà,
non,
donc,
mais
si ça va. C'était une si façon de présenter voulez. Rapidement, mais...
Oui, oui.
voilà, alors déjà, pourquoi le choix de la SCOP?
Alors, je fais partie des 3 personnes qui ont fondé la structure. Nous, c'est simple, au départ, on est plutôt... On fait du logiciel libre, donc on fait du Linux, on fait tout, on développe sur ces outils. Juste pour faire simple, ces outils-là, il y a 2 choses, c'est que c'est des outils qui sont développés de façon communautaire, qui, on va dire, quelque part, la force de travail, ce qu'il va mettre, c'est la capacité à les développer, à les mettre en place et à participer à un commun. Mais en fait, ils sont la propriété de personne. Et c'est là où, ça, c'était notre base en disant, voilà, nous, on veut développer le logiciel libre. Et donc, il y a 18 ans, on va dire, faire du Linux, c'était un peu moins connu. Maintenant, c'est plus connu. Et donc, en gros, la logique, c'était de dire, voilà, on développe des outils, on a envie de pousser des outils où, globalement, c'est du bien commun et ça appartient à tout le monde. Il y avait ça, il y avait une autre chose où on avait tous des expériences avant dans d'autres types d'entreprises et on avait envie de dire, on a envie de créer une structure où quand les gens ils arrivent, quand je dis s'ils sentent bien tout bêtement, oui, ils ont l'impression qu'ils font partie de l'équipe. Et on ne connaissait pas à ce moment-là, on a découvert, parce qu'il y a des réunions, on a eu du bol, on va dire, on a vu de la lumière, on est rentré et ça collait tout à fait par rapport à ce que je vous dis, parce que quand je parle des SCOP, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'une SCOP, elle s'appartient à elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à une personne. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. En gros, c'est-à-dire que la propriété, elle est collective, elle appartient à ses salariés. Et à ses salariés, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'en va ou qui rentre, il va récupérer ce qu'il a comme part sociale, mais ni plus ni moins. Et en fait, la SCOP, elle a toujours, c'est une entité morale qui s'appartient. Donc, pour nous, par rapport à ce que j'expliquais sur Libre, il y avait quelque chose de très cohérent à avoir, en fait, l'idée, c'était notre capacité à travailler, c'est-à-dire que ce qui va payer mon salaire ou les salaires des différentes personnes, c'est ce qu'ils vont produire comme richesse. C'est pas nécessairement le fait qu'on détienne la structure et qu'un jour on va la revendre ou etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très différent. Donc nous, on est arrivés par cette porte-là dans le monde coopératif. Et c'est vrai que oui, donc on parlait de philosophie ou d'idéologie, c'est parce qu'à un moment, voilà, nous, on n'était pas dans le mode... Quand je dis start-up, ce n'est pas une critique, mais c'est dans le mode start-up le principe de dire je fais une structure pour la revendre et la revendre très cher. Et à 35 ans, je vis à Los Angeles au bord d'une piscine. C'est sûr que si on veut faire ça, il ne faut pas créer une SCOP. Mais par contre... Si globalement, on va dire, nous, l'intérêt, c'est qu'on intègre des gens et que les gens qui viennent, au moins, leur appartient à la structure et ils ont l'impression qu'en gros, l'intérêt d'une SCOP, c'est qu'elle est là sur le territoire. Et je pense que si économiquement, parce que de toute façon, il faut qu'économiquement ça aille bien, dans 20 ans ou 30 ans, elle sera encore là. Et moi, je préfère me retourner et me dire, on a posé quelque chose qui permet de créer du travail que juste en avoir profité personnellement à court terme.
Alors, c'est vrai que vous avez commencé aussi à aborder cette notion de profit qui n'est pas dans la philosophie des SCOP. Hein. C'est pour ça que beaucoup de SCOP appartiennent au domaine de l'économie sociale et solidaire, là où l'humain et l'environnement priment davantage qu'au profit financier. Léni, alors pour vous, donc on l'a compris pour l'instant, c'est créer une association, mais voilà, vous avez quand même le projet que ça se transforme ensuite en une SCOP. Alors, pourquoi ne pas rester sous le format associatif ?
Alors déjà, le format associatif, pour moi, ça a été plus facile, en fait, parce que c'est assez rapide de créer une association. On a besoin d'être deux personnes et on dépose les statuts au registre des associations et ça se fait assez rapidement. Mais l'idée, c'est que la gouvernance se passe en trois étapes. D'abord, cette association dans laquelle je rentrerai dans la présidence avec les personnes qui m'accompagneront. Une fois que la structure commencera à faire un peu de bruit, à proposer des services, l'idée c'est qu'on puisse se salarier de cette structure en se sortant de la présidence et à terme créer une coopérative pour des raisons financières, parce qu'une association n'a pas vocation à proposer et à vendre un certain nombre de services. Et donc dans ce cas de figure-là, le modèle coopératif me convient le mieux pour des raisons économiques. Et après, comme a pu le dire Cyril aussi, sur la répartition de la gouvernance et de l'implication des différentes parties prenantes. Aujourd'hui, si on veut créer ce projet d'une maison de l'alimentation durable et solidaire, il faut que les habitants du territoire, que ce soit les consommateurs, que ce soit les agriculteurs, puissent s'en emparer et soient représentatifs des décisions qui vont être prises au sein de cette structure. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas encore au clair avec les différents modèles coopératifs, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais on pourrait imaginer différents collèges d'acteurs qui représenteraient des voix différentes pour que les agriculteurs et une place importante dans le projet, au même titre que les consommateurs, les transformateurs, etc.
Alors je pense que pour avoir un peu plus d'informations justement sur tout ce domaine-là, l'Union régionale des SCOP pourra vous aider. On va revenir justement sur ce travail-là et les outils. Je voulais juste vous redonner la parole, Cyril, parce que quand je disais que les SCOP n'ont pas vocation à faire du profit, vous avez un peu dodeliné de la tête.
Oui, vous l'avez noté, c'est bien. Non, mais oui, parce que c'est souvent, on va dire, c'est un modèle économique. C'est-à-dire que globalement, tous les salariés, je pense que partout, si tout dans une SCOP, les salariés ont fait beaucoup de bénéfices, tout le monde va être content. C'est-à-dire qu'on a personne n'est contre faire du profit. La question, c'est que le profit va être réparti sur les salariés et sur les associés. Et comme vous voyez, les associés, obligatoirement, la majorité, c'est des salariés. Donc, en général, pour vous donner une idée, en France, il y a 80% des salariés qui sont associés des structures dans les SCOP. Donc, en gros, c'est, quand je dis distribuer aux associés, c'est la même chose que les salariés. Donc, en fait, c'est pas faire de profit financier. C'est ça, peut-être. C'est pour ça que souvent, des fois, on va associer, on va dire, les SCOP facilement à dire, c'est quand je dis une sous-économie, c'est pour dire oui, c'est de l'économie qui fait pas de bénéfices ou etc. C'est pas vrai. On a des SCOP qui font des bons bénéfices et qui fonctionnent très très bien. C'est juste, voilà, c'est sur cette partie-là profit. C'est-à-dire que l'objectif, non, toutes les SCOP ont l'objectif d'avoir un modèle économique et globalement de payer le mieux possible leurs salariés. Il y a aucune raison que les gens disent, moi, j'ai décidé de pas me payer. Après, effectivement, vous avez vu qu'on a des personnes qui, globalement, ont un certain engagement. Donc, effectivement, le but, c'est pas de vendre des choses hors normes et de faire des profits maximisés dans l'absolu, par exemple, en réduisant la qualité alimentaire. Donc, il y a une logique, effectivement. Vous voyez qu'on a des personnes qui sont plus engagées. Donc, ça va jouer sur du qualitatif. Donc, c'est vrai que ça va réduire les marges. Mais c'est pas, on va dire, globalement, c'est pour ça. C'est sur cette notion de profit que je dînais. C'est qu'il faut, je pense que c'est important de se dire que c'est des sociétés d'abord, c'est des entreprises, donc il faut qu'il y ait une rentabilité et un modèle économique. Et là, c'est ce que l'a expliqué juste avant Lénie, c'est qu'en fait, le fait qu'ils ne mettent pas en SCOP tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique à court terme, et que tant qu'il n'y a pas de modèle économique, on ne peut pas être en société, on va dire, on ne peut pas être en entreprise coopérative. Mmh. C'est ça qui est important, et on est ancré dans l'économie classique, c'est juste qu'il y a des règles qui changent beaucoup de choses, c'est que l'entreprise appartient à ses salariés, donc du coup, il y a tout de suite obligatoirement une vue long-termiste qui ne va pas avoir nécessairement avec quelqu'un qui détient sa structure et des courts termes. Donc ça change beaucoup de choses sur la philosophie et sur quelque part, moi j'espère qu'en tout cas, il y a quelque chose de plus vertueux qui est créé à travers ça. Mais voilà,
c'est en cours. Pour revenir sur ce côté partage, effectivement, entre tous les membres, les salariés, les associés, c'est la principale différence avec une entreprise classique ou il y a d'autres aspects aussi ?
Bah, c'est une des grandes différences. Je dirais que ce fonctionnement appelle aussi à une gouvernance du coup partagée et si possible participative avec du coup les associés et les associés salariés qui sont partie prenante des décisions. Et ça, je pense que c'est un axe très fort et c'est aussi ce qui fait la pérennité des SCOP. Je pense que le fait d'avoir des décisions partagées, notamment sur les enjeux financiers, permet une bonne gestion finalement dans l'entreprise et une gestion qui est en adéquation avec les besoins de chacun et chacune des salariés associés. Donc ça, je pense que c'est un axe très fort, là, cette question de la gouvernance et de comment en fait on peut prendre des décisions pour l'entreprise de manière collective et qui restent saines.
Est-ce que ça veut dire alors que les SCOP finalement sont des entreprises démocratiques ?
C'est exactement moi. C'est globalement c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, on parle d'une crise démocratique avec beaucoup d'abstention. Le principe, c'est qu'on se bat pour que l'État, tout le monde dit, un État doit être démocratique. Ça paraît une évidence en disant ça fonctionne mieux. En tout cas, pour la plupart des gens en France, dans l'entreprise, là où vous passez la plupart de votre temps, c'est l'endroit le moins démocratique qui est, puisque globalement. Vous avez, la démocratie, ça ne veut pas dire tout le monde décide tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose de commun, qui est l'entreprise, et après, il y a une répartition, une partage du pouvoir et une transparence qui oblige qu'il y ait des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et en fait, les quelques règles qui sont instaurées, on n'a pas parlé, mais que le gérant soit élu par les associés, qu'en gros, il y ait une répartition au niveau de la participation quand il y a des bénéfices à l'ensemble des salariés. Il y a différentes choses comme ça qui sont posées et qui permettent de garantir qu'à long terme, on va dire, il y a un respect de ça. Pour donner une idée, des choses qu'on voit qui se créent, c'est qu'en général, en SCOP, il faut savoir que le gérant, souvent, son salaire, il est voté, pour plein de raisons, mais en AG. Ce qui fait qu'il y a une transparence totale sur l'ensemble des salaires. Et quand il y a une transparence totale, qu'est-ce que vous avez ? Les plus bas salaires sont plus hauts que la moyenne. Je prends pour des TPE, je parle TPE et PME. En tout cas, en SCOP. Et le plus haut salaire est plus bas que la moyenne. Du coup, ça, on est quand même déjà sur quelque chose, on voit bien que ça a un impact sur la répartition de la richesse, même au sein d'une structure. Donc voilà, le fait de prôner la démocratie, d'avoir des gens qui sont citoyens de leur entreprise, en plus, il y a différentes études qui montrent que le fait d'être citoyen dans l'entreprise, c'est souvent des gens qui sont impliqués ailleurs. Alors, est-ce que c'est qu'ils sont venus en SCOP parce qu'ils étaient impliqués ailleurs ou pas, je suis là. Mais la réalité, c'est que quand même, le principe, c'est que les gens, le fait qu'ils découvrent une certaine forme de prise de décision, de prise de parole, au sein de leur entreprise, on peut estimer que ça peut quand même les aider à se dire je peux peut-être avoir dans l'ensemble de la société un impact aussi.
Alors, on sait que si l'entreprise s'était montée sous la forme pyramidale, avec le patron qui prend les décisions, et ensuite, au fur et à mesure qu'on descend le long de la pyramide, on applique les décisions, c'est aussi pour simplifier un peu certaines choses. Quand il y a une personne qui prend des décisions, c'est toujours plus facile que 10. Alors, est-ce que ça pose pas quand même un peu des problèmes d'être à chaque fois l'ensemble de l'équipe qui doit décider de quelque chose ? Est-ce que ça multiplie pas le temps des réunions ?
Alors, je pense que Cyril l'a dit et je le redis, être en SCOP et avoir une gouvernance partagée ne veut pas dire tout décider de tous ensemble, tout le temps. Je pense que ce qui est très important, c'est de définir des périmètres d'autorité pour qu'on puisse prendre des décisions de façon réactive. Et dans une entreprise, on a besoin de prendre des décisions stratégiques plusieurs fois dans la même journée. Donc, je pense qu'il y a certains sujets qui méritent qu'il y ait l'ensemble des associés salariés et d'autres sujets qui peuvent être pris en fait, de manière plus individuelle ou en plus petit groupe au sein de l'entreprise. Mais pour ça, il faut le clarifier. Il faut être très, très clair sur qui prend les décisions sur quoi.
Absolument. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de système de veto. Quand on n'est pas d'accord avec la décision que veut prendre le collègue, même s'il il a la responsabilité, on ne peut pas l'empêcher.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que des fois, même collectivement, on prend une mauvaise décision. Ça arrivait. Et que ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'au moins, l'avantage, c'est que tout le monde l'a pris ensemble. Même des fois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et après, on peut revoir notre décision. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est la réalité de la démocratie. Moi, quand on dit ça, moi, ça me rend des fois un peu... ça me fait un peu rêver parce que, voilà, tout le monde prône, quand je dis dans l'école, partout, on vous dit le modèle démocratique pour une société, d'État, c'est la meilleure solution parce que ça permet plein d'autres choses que juste gagner de la richesse. C'est la répartition des richesses, c'est la même chose. L'entreprise pyramidale, essentiellement, et vous l'avez dit, à un moment, vous parliez de profit financier. Elle s'est créée pour des problématiques plus de profit financier que de profit sur l'ensemble de la structure. Et donc, la question, je vous parlais de la transparence et toutes ces choses-là, pour moi, ça ne gêne pas du tout ni la performance. Tout ce qui est performance économique, ça joue pas du tout compte. Parce que, par exemple, un des enjeux par exemple, qui peut être compliqué, et on va dire c'est du travail, c'est que ça veut dire qu'il faut monter le niveau de tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, ça veut dire que dans une SCOP, quand il y a une AG, tous les associés sont là, il faut que tout le monde sache lire un compte de résultat, un bilan et une idée de tout ça. Donc c'est ça, à la limite, ça c'est une difficulté. Vous pouvez dire, ça veut dire qu'il faut former tout le monde au sein de sa structure. Quand il arrive, bah, ça veut dire que bah, la personne, elle est informaticien, la personne, elle est ce que vous voulez. Et en fait, le bilan et les comptes de résultat, elle n'a peut-être jamais vu ça dans sa formation. Et en fait, c'est le niveau de tout le monde qu'on va monter qui demande un peu du travail. Mais l'avantage, c'est que ça permet qu'à la fin, tout le monde comprend la décision et on va gagner du temps sur des décisions. Et si les gens comprennent mieux pourquoi ils ont pris certaines décisions, bah, ils les acceptent mieux. Voilà. Et on, bah, moi, pareil, hein, je veux dire, on a vécu là pendant un an et demi. Bah, c'est vrai que quand c'est expliqué, on a plus envie de faire les choses que quand c'est dit de façon abrupte. Je pense que ça, tout le monde le comprend. Mais ça change rien sur la performance. Ça, c'est, on va dire, c'est une, c'est des trucs faciles pour juste rejeter. Le vrai enjeu qu'il faudrait se poser de question, c'est est-ce qu'une entreprise coopérative a décidé de se délocaliser ? Moi, j'en connais aucune où ils ont tous voté d'aller en Chine. Mmh. Et ça, c'est pas mal. Quand même.
Donc, on a évoqué certains avantages hein, de se monter en scope plutôt que qu'une autre forme. Quel est le principal inconvénient, s'il y en a ?
C'est le temps, on va dire, c'est effectivement là, c'est le temps de monter le nid. Par exemple, des gens qui arrivent dans le monde, d'abord, on est très peu de structures. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, il y a, vous parliez de 67 000 salariés, c'est-à-dire que c'est quand même, on n'est pas nombreux. Hein, faut pas, veut dire, on parle beaucoup des scopes, on parle de tout ça, on n'est pas nombreux. Donc, c'est-à-dire que quand des gens arrivent en scope, il faut déjà leur expliquer tout ça, parce que c'est un modèle où les gens, au départ, ils nous regardent, ils disent, mais c'est étonnant, est-ce que c'est vrai ? Parce que ça paraît étonnant, on veut dire bah, tu vas pouvoir détenir une part de la structure et c'est en réel et c'est un homme, une voix. C'est-à-dire qu'on détienne une part ou 500 parts, on a une voix dans une la décision. Loi. Et donc, il y a toute cette partie-là et il y a toute la partie d'acculturation à tout ça qui est quand même un modèle alternatif à dire il y a le dirigeant ou les dirigeants qui décident et je ne suis pas au courant. Donc, il y a tout ce changement de paradigme à avoir pour quand les gens arrivent et pour les inclure dedans et pour fonctionner. Et ça, c'est, on va dire, c'est une perte de temps. Mais c'est un gain de temps sur le long terme. C'est-à-dire, sur le long terme, on a une implication de tout le monde. Donc oui, il y a des avantages. C'est-à-dire que ça demande un effort à expliquer. Ça demande un peu plus de discussion, un peu plus d'argumentation. Mais je pense que le gain sur le moyen terme, il est clair. Mais sur le court terme, c'est un plus de travail. C'est-à-dire qu'il faut revenir, expliquer, prendre le temps, etc.
Voilà. D'accord. Jeanne, est-ce que vous voyez d'autres inconvénients ?
Moi, je serais dans la même lignée, cette idée de prendre du temps pour que tout le monde soit au même niveau d'information et de capacité de prendre une décision. Donc, je dirais que ça, c'est quand même un des inconvénients. Et le temps pour clarifier la gouvernance, pour être sûr que quand on prenne une décision collective, ça soit le bon processus de décision, que ça, justement, que ce processus soit efficace pour ne pas perdre du temps à prendre des décisions à plusieurs. Donc je dirais que, pareil, c'est au début du temps pour clarifier la gouvernance et les rôles.
Léni, quand on envisage créer une activité en mode scope, quelles sont les bonnes questions à se poser ? Parce qu'il ne faut pas se précipiter comme ça, se dire la scope, ça y est, c'est la meilleure formule, j'y vais. Vous avez réfléchi, vous avez pesé un peu le pour et le contre avec différents types de formats d'entreprise, de statuts ?
Alors, oui, alors pour l'instant, j'ai pas encore approfondi les différents statuts parce que c'est encore un peu loin. Ce que je sais, c'est que moi, je veux le modèle coopératif. Après, je sais qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, plusieurs modèles coopératifs à l'intérieur des coopératives. Donc, ça complexifie un peu les choses. Mais j'aurais pu faire le choix de dire, après l'association, je monte une SA ou une SARL et point barre. Et comme on disait tout à l'heure, je fais les profits. Et après, je fais des dividendes. Moi, vraiment, la coopérative, c'est à la fois la répartition des richesses en interne, mais aussi sur le territoire. C'est-à-dire que les profits qui vont pouvoir être générés vont pouvoir peut-être financer d'autres projets qui vont dans les idées du lieu que je souhaite construire. Et après aussi sur la question de la gouvernance, c'est-à-dire que moi, même si j'ai une expérience professionnelle encore assez courte, j'ai connu le modèle entreprise descendant d'un bureau d'études où on a un chef d'entreprise, un manager, des consultants. Et ce modèle-là, il ne me convient pas. Le modèle de gouvernance tel qu'on l'évoque tout à l'heure, d'un point de vue de répartition de la charge mentale, d'un point de vue de la responsabilisation des personnes qui sont dans l'aventure, me convient mieux et je trouve que c'est en adéquation avec ce que je suis et ce que j'ai envie de porter comme valeur. Donc voilà pourquoi, pour moi, la coopérative a un vrai sens à construire.
Du point de vue de l'Union régionale des SCOP, Cyril, vous évoquiez tout à l'heure des outils d'accompagnement pour les porteurs de projets. Alors comment ça fonctionne à ce niveau-là par rapport à l'Union ?
Il y a déjà plein d'outils, c'est-à-dire que c'est peu connu, mais on a beaucoup d'outils financiers. C'est-à-dire que par exemple, nous, je parlais tout à l'heure, on a des délégués partout pour aider à la création de structures. Il faut savoir qu'une fois que ça passe par des comités d'engagement qui sont des salariés de SCOP qui font partie de ça, qui vont analyser les dossiers. Même, voilà. Et si ça est validé, par exemple, l'ensemble de la garantie, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand vous créez une structure, souvent vous allez demander à la banque, même si on vous dit que c'est une SARL, donc c'est à responsabilité limitée, le crédit, la banque va vous demander d'être garant à titre personnel. Donc par exemple, c'est le mouvement dans ce cadre-là, donc l'Union régionale des SCOP, qui va se porter garant pour vous. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui créent en SCOP, la garantie, quelque part, c'est le mouvement. Donc, c'est la coopération entre toutes les coopératives qui dit, nous, toute entreprise qui se crée, quelque part, on vérifie que ça tienne la route. Et si ça tient la route, on se porte garant. Et on a d'autres outils financiers qui permettent, par exemple, j'en sais rien, des leviers, tout bêtement. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin d'un financement, le mouvement est capable de mettre 50 000, 100 000 euros, ce qui fait que ça fait une levier, ce qui fait qu'on a des accords avec des banques qui vont mettre la même somme. Donc, on a des outils comme ça pour permettre, on va dire, de surmultiplier les financements au démarrage ou même en cours de la croissance externe ou ce que vous voulez. On a ce type d'outil. On a un outil qui s'appelle Alter Incube qui est là pour tous les projets innovants. C'est-à-dire que vraiment, les projets, là, comme vient de parler Lénie, qui sont vraiment en démarrage où il y a plein de choses. Donc là, il y a des outils où on a des moyens d'avoir des consultants pour aider à structurer le projet pour arriver à le rendre viable économiquement. On a un outil, mais on en a plein. Mais par exemple, il y a COP Venture qui s'est créé il n'y a pas longtemps. Donc là, on parlait de l'alimentation, mais surtout ce qui est le numérique et l'innovation. Donc l'idée, c'est de quoi ? C'est que les gens qui veulent se créer en start-up, souvent le modèle, et là, on rentre plutôt dans, pour moi, c'est les habitudes qu'on a. C'est, on va créer une start-up, je vais aller voir des financeurs, des business angels, etc., qui vont prendre des parts. Et l'objectif, c'est qu'ils vont vouloir, 1/10, faire une marge et la revendre avec une grosse marge. Là, le principe de COP Venture, c'est un fonds qui est un fonds patient où on va dire les gens vont investir. On sait que c'est une start-up, donc il y a un gros investissement avec peu de chances de retour et surtout un retour qui va prendre un certain temps. Mais du coup, c'est un fonds où il ne va gagner pas beaucoup. Mais par contre, quand on va le récupérer, au bout de 15 ou 20 ans, ça va permettre de continuer à créer d'autres structures. Donc en fait, on essaie d'avoir des outils différenciés qui essaient de s'adapter aux besoins qui arrivent. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a tous ces outils techniques et ces outils financiers qu'on ne parle pas parce que ça peut paraître compliqué, mais le mouvement, parce qu'il existe depuis des années, parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les SCOP, SIC cotisent en fait une partie de leur valeur ajoutée au mouvement, ça permet comme ça d'avoir un vrai poids. Et en plus, on a un deuxième poids, c'est que, on va dire, on a un poids symbolique, c'est-à-dire qu'on est reconnu par plein d'acteurs comme étant quand même une valeur quand on dit, tiens, ça, c'est une structure, on y croit. Parce qu'économiquement, on l'a validé, c'est un vrai plus. Voilà. Donc, pour donner une idée de ce que ça peut apporter, mais il y a tout un monde derrière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul quand vous créez en SCOP, réellement. Il y a tout un écosystème.
Vous écoutez News FM sur le 101.2. On est dans la voie de l'emploi. On va faire une pause musicale. On poursuit la discussion du jour avec nos trois invités. On parle aujourd'hui des SCOP, les sociétés coopératives et participatives. À tout de suite.
Tensed us ahead. My youngin' got them bodies, she still pissin' the bed. Man. Keep the code of silence, don't repeat what I said. 21. Keep all the baloney, I just came for the bread. Oh, my hood known for wildin' and I don't promote the violence. I done been through all the trials and tribulations, now I'm smiling. 21. Say he wanna smoke, we at the table doing the plotting. We gon' slide with your shit up, making home for you, hear a siren. I'ma let him spin like a spiral. Straight up. I don't got no love for no rival. Straight up. Put him on the news, he went viral. I took a number two with my rifle. Pussy. Every car I mean, I got the title. Slaughter gang, I turn a model to a hiker. I know they want me dead, I got a Kel-Tec in this Viper. I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper. 21. Even want no problems and it's obvious. Call me soft, cause I laugh when I body shit. Oh, we play hot potato with the ops, we be dropping shit. 21. Giving out free smoke, cause we got a lot of 21. It. Trying to feed the fam, I was trapping in the cold. 21. Dropped a mixtape, turned around, I was on the road. Okay. You can't give me no amount of money for my soul. 21. He wasn't really no robber, he got killed cause he won his role. Facts. Matt 90 poking out my Goyard. Diamond back poking out my Louis V. LV. Nigga, fuck your Glock, we shoot bitch, chop bitch. 7'6,
308 and 223. 21, 21. I'ma let them spin like a spiral. 21. I don't got no love for no rival. Pussy. Put him on the news, he went viral. Pussy. I took a number two with my rifle. 21, 21. Every car I'm in, I got the title. Slaughter gang, I turn a model to a hiker. I know they want me dead, I got a Kel-Tec in this Viper. I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper. I make sure the beef gets Swiss cheese. 21. I'm from 20 East, where they killing thieves. Stones got my ears feeling like Christmas Eve. Fat. Before you bend over, baby, get on your knees. Fat. Drive by, jump out, then you tie-dye. 21, 21. Say a nigga touch me, that's a lie-lie. Big cap. She fried, she fucked the gang, we call her Five Guys. Five Guys. I'm so high, I almost thought I skydive. Skydive. I'ma let them spin like a spiral. Straight up. I don't got no love for no rival. Straight up. Put him on the news, he went viral. I took a number two with my rifle. Pussy. Every car I'm in, I got the title. Slaughter gang, I turn a model to a hiker. I know they want me dead, I got a Kel-Tec in this Viper. 21. I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper. 21.
La voie de l'emploi, c'est sur News FM. Vous écoutez La voie de l'emploi sur News FM et nous parlons aujourd'hui des SCOP, ces activités économiques basées sur la coopération et la participation de leurs membres et salariés. Nos invités sont Jeanne de Kerdrel, membre de la SCOP Semaoui, Cyril Zorman, directeur de la SCOP Propsis et président de l'Union régionale des SCOP, et Lénie Moulin, porteur d'un projet de SCOP, une maison de l'alimentation solidaire. Et ben justement, Lénie, on va repartir un petit peu dans le passé. Comment est arrivée cette envie de monter votre propre activité, parce que vous avez déjà une expérience un petit peu hein, dans le domaine de tout ce qui est alimentaire, ouais. Agriculture.
Alors aujourd'hui, moi, ça fait environ 4 ans que je suis consultant en politique alimentaire sur le territoire français. Donc, j'accompagne des collectivités à monter des projets en agriculture et en alimentation. Il y a différents sujets qui sont abordés. Ça peut aller de la restauration collective, comme comment avoir plus de produits locaux à la cantine. Ça peut être les questions de protection du foncier agricole pour permettre de préserver les terres et dans le futur, continuer à avoir des agriculteurs. Voilà, on est amené à traiter pas mal de sujets. Ce projet-là, il part à la fois d'une envie de ma part d'entreprendre depuis un certain nombre d'années et d'un constat qui est qu'aujourd'hui, on a une précarité alimentaire en France qui cesse d'augmenter. On était environ à 5,5 millions de personnes qui bénéficiaient de l'aide alimentaire en 2018. Avec la crise de la Covid-19, si on en tient les rapports faits par les experts, on devrait atteindre environ 9 millions de personnes fin 2021. Pour un pays comme la France, pour moi, c'est tout juste pas acceptable de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger 3 fois par jour. Si on regarde l'autre bout de la chaîne, aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à se rémunérer et à avoir une juste rémunération de leur travail. C'est des gens qui travaillent 50, 60 heures par semaine et qui n'arrivent même pas à tirer un SMIC. Et donc du coup, pour tout ça, moi, j'ai vous souhaité créer ce projet de maison de l'alimentation durable et solidaire pour vraiment essayer d'apporter une solution aux acteurs du territoire pour rendre accessible l'alimentation qui est cette logique de redistribution des richesses. C'est-à-dire que là, tel qu'on réfléchit le projet, c'est qu'il y ait des menus à plein tarif qui permettent de faire un peu d'excédent par rapport au coût du repas et par rapport aux charges de structure qui permettent de financer des repas solidaires à des gens qui n'auront pas les moyens. Et l'idée, c'est qu'aussi, à travers ces services-là, les producteurs puissent prendre une place dans cette coopérative pour parler de leur métier et faire comprendre aux gens de qu'est-ce que c'est le réel coût de leur métier. Et aujourd'hui, quand on voit certains prix dans certaines grandes distributions de fruits, de légumes, de viande, on se demande comment les agriculteurs arrivent à vivre derrière. Et donc du coup, c'est de faire vraiment de l'éducation et de la sensibilisation sur l'ensemble de la chaîne de qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est manger sainement et durablement.
Alors quand on décide de se lancer dans un projet de scope, qu'est-ce qui est important au tout début, à première phase? Il faut bien réfléchir le projet, il faut l'argumenter, il faut se documenter. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, c'est une très bonne question. Là, aujourd'hui, sur le modèle associatif, ce qui est très important, on en parlait un petit peu à la pause, ça va être le modèle économique, sur quels sont nos produits, quelles sont nos charges, et voir un peu si on arrive à l'équilibre. Bien souvent, la première année, c'est compliqué. On met voire 2 à 3 ans à arriver à atteindre l'équilibre. Et après, c'est vraiment cette vision où on a besoin d'avoir une vision chiffrée. Là, des exemples concrets. Par exemple, moi, je parle de maison d'alimentation. Aujourd'hui, les premières questions, c'est combien tu as besoin de surface pour poser ce lieu. Et en fonction de la surface, ça va définir ensuite les charges que ça va représenter, les investissements en termes de rénovation, etc. De combien de personnes tu as besoin pour faire tourner ce lieu-là. Aujourd'hui, moi, je suis tout seul. Je rencontre des gens pour fédérer un peu et trouver des associés. Mais voilà, est-ce qu'on a besoin d'être 3, d'être 4, d'être 5 pour gérer les différents espaces? Et donc, c'est vraiment cette question de comment on structure le projet d'un point de vue humain, d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue économique. Et après, c'est aussi comment comprendre l'écosystème du territoire pour comprendre ce qui se passe déjà, pour pas forcément reproduire la même chose, voir comment on peut s'insérer dans les trous qui ne sont pas proposés ou être en complémentarité avec ce qui se propose déjà, et essayer de comprendre un peu les enjeux politiques des communes qui sont présentes sur l'agglomération, parce que ce projet-là est fortement lié à une volonté politique à l'avenir.
Alors, je le disais aussi pendant la pause musicale, quand on veut créer une activité, l'important c'est de savoir à qui s'adresser pour avoir des aides, des conseils, un accompagnement et pourquoi pas aussi des aides financières gracieuses, puisqu'il y a parfois l'État qui peut aider ou d'autres structures. Alors, vous êtes, quel a été le premier contact que vous avez eu, la première porte que vous avez poussée?
Alors, la première porte que j'ai poussée, ça a été l'appel à projet Prémis, qui du coup fait partie d'un appel à projet de l'Union régionale des SCOP.
Ben voilà.
On n'avait pas parlé, mais ça en est un peu cela.
Voilà. Donc c'était une candidature qui s'est faite au mois d'avril. Je n'ai pas été sélectionné parce que mon projet n'est pas assez avancé, notamment sur la modélisation du modèle économique. Mais du coup, cette démarche m'a permis de me mettre en relation avec Alter Incube, dont parlait Cyril tout à l'heure. Donc il y a eu un premier appel à projet d'accompagnement au mois de mars auquel j'ai loupé la réponse. Et donc du coup, j'ai échangé avec Alter Incube pour pouvoir déposer un dossier au mois de septembre. Là, en tout cas, en Isère, ce sera au mois de septembre. Je ne sais pas si au niveau de la région, c'est pareil. Donc mon objectif, là, c'est de pouvoir déposer un dossier d'accompagnement à Alter Incube au mois de septembre. Et là, fin de semaine, je rencontre Capberia, qui est une structure de Grenoble qui accompagne les jeunes entrepreneurs. En attendant de pouvoir échanger avec Alter Incube et pour commencer à prendre des premiers conseils et des premiers retours.
Voilà, donc on le voit, de toute façon, les portes justement à pousser, il y en a beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à en pousser une qui va ensuite en renvoyer sur d'autres. Cyril,
vous voulez rajouter quelque chose? Là, on parlait de prémices, en fait, on a été débordé sur prémices. Pour faire simple, c'est quelque chose sur ce qu'on a appelé l'alimentation résiliente, c'est de comment avoir de l'alimentation un peu, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il vient d'expliquer, mais de l'alimentation saine pour tout le monde, etc., du circuit court. Et donc, c'est quelque chose qu'on a lancé en disant c'est pour aider les structures. Et effectivement, on a été débordé. C'est-à-dire que ça, c'est une idée qui est venue du CA, de l'Union régionale des SCOP, de 2-3 personnes qui ont porté ça. Et littéralement, on a croulé sous les demandes. C'est juste pour dire, quand je parlais de l'alimentation, c'est quelque chose qu'on sentait poindre, mais qu'on se rend compte qu'il y a ça. Et je rajouterai une autre chose, parce qu'on parle de la création. Mais pour plein de gens, si ça les intéresse, il faut savoir qu'il y a plein de SCOP. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plein qui, des fois, cherchent des gens. Donc, faut pas hésiter. Vous pouvez retrouver, sur le site de l'Union régionale des SCOP, où vous avez Ambition ESS ou Alpes Solidaires ou ces différentes choses, où vous pouvez retrouver des annonces. Et donc, ça, si vous voulez aller travailler pour des structures existantes et pas nécessairement avoir un projet, faut pas hésiter aussi. C'est-à-dire qu'il y a on peut avoir une idée, envie de créer, et on peut aussi dire, mais moi, j'ai envie de travailler comme ça. Ça m'intéresse d'aller voir et de rencontrer. Il faut savoir que même si vous les rencontrez juste pour échanger, en général, dans les SCOP, les gens sont toujours, vous voyez, là, il y a 3 personnes qui sont contentes de parler de ce qu'elles font. Donc, faut pas hésiter à envoyer un mail, même pour échanger, parce que, en général, vous êtes bien reçus. Je dis pas de bêtises, je pense que, voilà.
Jeanne, donc vous l'avez expliqué rapidement au tout début, on va revenir un peu plus sur le travail que fait votre SCOP, donc c'est Maui. Vous accompagnez des structures qui souhaitent finalement transformer leur expérience du travail en équipe, hein, c'est un peu le message que vous faites passer sur votre site web. Est-ce que, alors justement, Cyril disait qu'ils étaient débordés sur des demandes par rapport à ce qu'il évoquait, est-ce que vous avez aussi beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a une soif de vivre son entreprise, sa structure, le travail de l'ensemble des personnes? Il y a une soif de vouloir changer un petit peu les choses, vivre l'entreprise différemment?
Oui, vraiment, on a de plus en plus de demandes et des demandes spontanées de dirigeants, de dirigeantes d'entreprises qui ont envie de faire différemment, qui ont envie de changer la manière de manager, qui ont envie qu'il y ait un partage, en tout cas des responsabilités et peut-être un jour de la propriété s'il y a passage en SCOP. Voilà, nous, on reçoit toutes ces demandes. Tout ce qui va toucher au statut juridique de la SCOP, eh bien, évidemment, on renvoie vers l'Union régionale, qui est pour moi l'interlocuteur privilégié. Et après, pour les entreprises qui n'en sont pas là dans leur cheminement, mais qui ont déjà envie de faire un petit pas de côté pour aller vers un peu plus de gouvernance partagée ou en tout cas de travail collaboratif en équipe, nous, on accompagne ces entreprises-là. C'est un chemin qui est passionnant. On accompagne des entreprises sur un an, deux ans, et on voit vraiment une évolution de la façon de travailler en équipe, de la façon de communiquer, et puis de la répartition du leadership. Et pour les dirigeants, les dirigeantes qui ont choisi de s'engager dans un chemin comme ça, il y a vraiment cette sensation de pouvoir à un moment partager les responsabilités et ne pas être seul, en fait, seul capitaine à bord, à devoir prendre des décisions stratégiques seul, parce qu'en fait, c'est pas évident. Et ça prend du temps aussi de décider tout seul, finalement.
Vous voulez rajouter quelque chose? Non, alors c'est bon. J'étais pas sûr que vous me faisiez un signe ou pas. Que ce soit les SCOP ou les autres formules d'activité économique différentes, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps? Parce que, voilà, la société a évolué, donc est-ce que c'est un peu à la mode ou est-ce que vous pensez que c'est véritablement un signe d'une évolution sociale de l'entreprise? Grande question, là, on ouvre le débat.
Moi, je peux répondre, hein, c'est cyclique. Hein, je veux dire, en gros, il y a eu des moments où on est à la mode et à un moment où on est has-been. En tout cas, en SCOP, depuis le temps, je deviens vieux, hein, je suis désolé, mais en tout cas, en 18 ans, presque 20 ans, il y a des moments où les gens ils trouvent que c'est super. Bon, on parle globalement en termes de communication plutôt pas mal de nous. On parle souvent en reprise. C'est très étonnant, alors que ce qu'on fait, ce n'est pas des reprises. Il y a beaucoup de créations. Ouais, on a plus de gens qui ont créé que de reprises. Mais la réalité, elle est que derrière tout ça, une fois qu'on parle de la communication, en termes de développement, la réalité, c'est pourquoi on n'est pas plus nombreux, parce que la question, elle peut se poser. C'est qu'il y a un moment, on est quand même culturellement sur une espèce de plateforme de verre. Pas, mais on monte doucement, on monte, hein, on est de plus en plus nombreux, etc., etc., mais qui est quand même culturel. On est quand même sur une société où, globalement, moi, quand j'ai créé ma structure, si vous voulez, dire tu crées une structure qui t'appartient pas, mais c'est un peu bizarre quand même ton histoire. On a même fait pire, hein, il n'y a pas longtemps, et j'ai des collègues, pas des collègues, des copains à moi qui se moquaient de moi. Quand on parlait du groupement, c'est-à-dire qu'on a aidé, on a transformé une structure, on a racheté une structure à une gérante qui partait à la retraite pour la transformer en SCOP. C'est-à-dire qu'on a payé de l'argent pour transformer une structure qui, du coup, n'appartient plus à personne et est plus revendable. Donc, voilà, si vous prenez pour plein de gens, vous posez ça et vous dites c'est une absurdité économique. Si on ne va pas réfléchir plus loin, on va dire mais pourquoi vous achetez un truc que vous ne pouvez plus revendre? C'est complètement idiot. Donc, en fait, tant que vous aurez ça et qu'on parlera plus à la télé, à la radio, que quand même la personne elle a créé une structure qui va rester longtemps et qu'elle aura un retour symbolique sur ça, parce qu'on n'a pas de retour pécunier, c'est-à-dire quelqu'un qui crée une structure et qui fait ça, on est bien d'accord, on ne va pas la revendre et du coup faire une plus-value, parce que, etc. Donc ça, on va dire quelque part, ça, mais c'est inhérent à comment ça fonctionne en SCOP. Mais on va dire symboliquement, le fait de faire ça, à l'heure actuelle, ça n'apporte pas une plus-value énorme. Quand vous dites ça, une partie, on va plus parler à la télé. Je vous reparlais d'ailleurs, globalement, de la personne qui a fait x10 avec ça et qui a gagné, revendu très cher. Symboliquement, lui est en plus récompensé en termes d'argent et symboliquement. Donc tant qu'on aura ces deux trucs culturels contre nous, donc l'argent, ça ne changera pas parce que ça fait partie du modèle, mais au moins symboliquement de faire ça, que tout le monde reconnaisse qu'il y a un bien. Maintenant, tout le monde est clair, le bio, on comprend l'intérêt que ça a du bio. Le monde coopératif et la répartition des richesses, les gens disent oui, c'est bien, mais de là à dire oui, c'est bien, et de dire j'ai passé le pas et maintenant je vois vraiment la différence à long terme et je suis acculturé à ça et maintenant le gars qui s'est créé une structure juste pour gagner un maximum d'argent, je fais caricature, hein, tout le monde ne fait pas ça et tous les gens qui créent des entreprises, il n'y a pas des bons et les méchants. Hein. Je suis désolé, je vais vite, je caricature. Mais heureusement, il y a plein de gens qui ne créent pas des scopes et qui ont une visée très proche de ça. C'est juste, je caricature pour aller un peu plus vite. Mais globalement, en gros, créer une structure en scope, à l'heure actuelle, tout le monde dit c'est bien. Mais quand même, une autre partie de ces mêmes personnes, quand elles réfléchissent, elles disent quand même, c'est très, très engagé comme type de structure. Et globalement, le retour symbolique, une partie, quand même, les gens regardent ça en disant, mais c'est quand même bizarre, c'est pas très logique, t'as pas tout bien réfléchi. Et ça, je pense que c'est vraiment un gap culturel. C'est-à-dire qu'au moment où la société, elle sera vraiment à dire « Ah oui, non, mais les gens qui font ça, en fait, ils font quelque chose qui est quand même un impact social qui est plus que pas négligeable. » C'est pas Danone qui d'un coup fait un impact social ou je sais plus, qui entreprise, je sais même plus quoi, j'ai oublié les noms parce qu'il y a plein de washing de plein de trucs. Mais en gros, c'est pas tout ça. C'est vraiment des gens qui du coup ancrent. C'est-à-dire le fait que le statut, etc., ça ancre réellement dans le fait que socialement, ça reste bénéfique à long terme. Et tant qu'on reconnaîtra ça et que les gens qui font ça, vraiment, ils auront ce retour-là, eh ben, je pense qu'on aura plus de gens. C'est-à-dire qu'on arrivera à dépasser cette quantité-là de personnes. C'est-à-dire qu'on dépassera le bien le plus le 1 pour 1000 parce que les gens, ils viendront en disant « Oui, je comprends. » C'est-à-dire que j'ai un retour au pré-autour. C'est-à-dire qu'en fait, faire quelque chose pour qu'après, les gens autour de vous vous disent « C'est un peu bizarre », c'est quand même… Il faut être sûr de ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est moins naturel. Je suis désolé, hein, c'est long, mais j'ai pas pu.
Non, mais au moins ça nous donne des informations. Jeanne, sur justement les structures, parce que j'allais dire les entreprises, c'est pas forcément à chaque fois des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que c'est toujours des structures de taille modeste, PME, PMI, où vous avez des grosses sociétés qui ont demandé à travailler avec vous ?
Alors nous, dans nos clients, on travaille surtout avec des PME autour de Grenoble, mais ça c'est aussi une volonté de notre part. Et puis on a quelques clients qui sont des entreprises de taille plus importante, jusqu'à 150 personnes aujourd'hui, c'est des entreprises qu'on peut accompagner. On travaille aussi en collectivité, donc là parfois on est au-delà des 1000 personnes. Et d'autres personnes qui font le même métier que nous, qui accompagnent des équipes à passer sur un mode plus collaboratif, ont aussi les portes ouvertes dans des très grandes entreprises. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de frein en question de taille d'entreprise. C'est vraiment une question de volonté.
Oui, ben voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a évoqué à l'instant. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir l'exemple aussi concrètement du travail de terrain que vous faites. Si vous constatez cette volonté, même chez les grosses sociétés.
Oui, tout à fait. Et je pense que le modèle coopératif répond quand même à beaucoup de besoins. J'ai 29 ans, les gens que je connais autour de moi, de ma génération, on est souvent déçus de nos premières expériences professionnelles dans le monde du salariat classique. Et je vais parler pour moi, dans mon parcours professionnel s'est fait grâce à l'entrepreneuriat coopératif. C'est parce qu'à un moment, j'ai rencontré des coopératives d'activité d'emploi, des CAE, que j'ai pu monter une activité et que j'ai pu créer mon métier et créer mon emploi finalement. Après, voilà, j'ai rejoint Enscope, ce qui permet aussi de rejoindre une équipe et de mutualiser des moyens. Je vois chez des plus jeunes que moi, des personnes qui veulent nous rejoindre en stage notamment, où elles sont déjà dans l'idée de vouloir rejoindre Enscope. Donc elles sont au courant et elles savent que c'est vers là qu'elles ont envie d'aller. Et je vois aussi que ça répond aux besoins d'autres personnes, notamment qui ont envie de changer de métier, de donner du sens à leur activité et qui du coup se tournent vers les modèles coopératifs, que ça soit en CAE, en SIC ou en Scope.
On arrive bientôt au terme de notre émission. Alors, je vais peut-être vous laisser un mot de la fin et nous donner peut-être aussi des contacts. Bon, aujourd'hui, avec les sites web, c'est assez facile de trouver les différentes structures représentées par nos invités. Mais je ne sais pas si vous avez envie d'évoquer quelque chose. Alors, Lénie, peut-être des conseils pour ceux qui se lancent comme vous dans un projet comme ça, monter une activité.
Ouais, non, des conseils, ce serait un peu prétentieux. Juste, je peux parler de ce que moi je vis là depuis quelques mois. C'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est un peu la machine à laver. Quand on rentre dedans, on s'en prend plein la tête et il faut garder le cap en fait. On arrive avec des a priori, avec un projet qui est bien ficelé. Et en fait, moi, je commence à comprendre que le projet que j'avais amené au départ sur la table, eh ben, il sera pas du tout le même à la fin. Parce qu'en allant me confronter aux acteurs, en allant me confronter aux experts, aux consultants, eh ben, il y a plein de choses qui évoluent et il faut à chaque fois arriver à se réinventer pour que le projet, au bout du bout, il puisse arriver.
Alors, vous nous tiendrez au courant, hein, vous reviendrez peut-être dans une prochaine émission lorsque l'activité aura été montée.
Avec grand plaisir, du coup, je lance un appel là. Certaines personnes nous écoutent et sont intéressées par ce projet, eh ben, je serais très heureux d'échanger avec eux pour collaborer et voir comment on peut avancer ensemble.
Donc une maison de l'alimentation solidaire.
Exactement.
Sans prendre plein la tête, disait à l'instant Léni, quand on porte un projet comme ça, donc c'est toujours mieux d'être plusieurs à s'en prendre plein la tête. De ne pas être tout seul,
ouais, c'est sûr. De trouver de la ressource chez ses coéquipiers. Et puis bah, nous, évidemment, c'est notre métier. Le fait d'être un tiers qui accompagne une équipe à aller vers un fonctionnement plus coopératif, ben, ça permet aussi d'apaiser certaines tensions, de réguler ce qu'il y a à réguler et puis d'évoluer dans ses pratiques professionnelles. Si moi j'avais deux actualités à partager sur la vie de notre scope là, pour cette fin d'émission, on a eu envie de raconter justement notre aventure de transformation en scope et on a écrit un livre à 6 voilà, qui vient de sortir, donc vous pouvez le commander sur notre site web. Et puis si j'avais une invitation, ça serait de venir voir, en fait, de pousser les portes pour dépasser certaines idées reçues sur le modèle coopératif. Et pour la SCOP, c'est moi, oui. En tout cas, le 11 juin, on fait un événement en visio, toute une journée inspirante pour les organisations. Et vous pourrez avoir différents témoignages, soit de personnes qu'on a accompagnées, soit d'autres entreprises du territoire grenoblois qui se sont lancées dans une transition vers un modèle plus coopératif.
Donc, pour rejoindre cette visio, ça sera via le site
C'est ça, l'événement La Fabrique des Alpes, le 11 juin.
Très bien. Eh bien, Cyril, le mot de la fin.
Je vais essayer de faire un truc intelligent. Pour reprendre tout ce qui a été dit, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine exigence. Mais quand je dis exigence, ce n'est pas intransigeant. C'est exigence dans le modèle en termes démocratiques et de citoyenneté. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Et en fait, il faut juste savoir que, ben, Jeanne vient de l'expliquer, mais il y a plein de choses où, en fait, qui viennent du monde coopératif et qui, après, sont appliquées dans les structures beaucoup plus classiques. Donc, en fait, il y a plein de choses. Des fois, vous entendez parler d'entreprises libérées, etc. Mais si on regarde, en fait, toutes les choses qui souvent sont expérimentées dans le monde coopératif, quelque part, rejaillissent sur d'autres choses. Donc, même si, globalement, je vous dis, on n'augmente pas autant qu'on voudrait, et je me dis, bah, il faudrait qu'on augmente mieux et qu'il y ait plus de scope, il y a quand même plein de choses qu'on fabrique qui rejaillissent dans ça. Donc, déjà, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire que toutes les choses diffusent et, en fait, ça apporte des nouveaux modèles de gestion. C'est vrai qu'on arrive au bout, c'est-à-dire qu'à un moment où dire la propriété commune, je dis bon, c'est super, mais on voit qu'il y a un pas quand même qui est fait sur plein de choses et dans plein d'entreprises sur le fait qu'il faut impliquer les gens. Voilà, mais il faut aller au bout maintenant.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pendant cette petite heure pour nous aider à mieux comprendre le petit monde des scopes suivant vos propres expériences. Nous étions donc en compagnie de Jeanne de Kerdrel, membre de la SCOP CEMAOUI, Cyril Zorman, président de l'Union régionale des SCOP et directeur de la SCOP Propsis, et Léni Moulin, porteur d'un projet de SCOP, une maison de l'alimentation solidaire, à suivre donc bientôt. Merci à vous trois, bonne route à vos activités. Moi, je vous donne rendez-vous à la fin du mois, de ce mois de juin, pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi sur News FM. Très bonne journée à toutes et tous et reprise du direct à partir de 16h. Pour l'heure, c'est Musique Non-Stop sur le 101.2. Salut!
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et du Cégette, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.